signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour Laura et bonjour à tous. On s'est refusé à parler de lui dans cette émission, sinon pour se faire l'écho des historiens et écrivains rectifiant ses propos, parce qu'il était hors de question de relayer la campagne de promotion fascinée de la presse pour son livre. Le style absurde, les aberrations historiques, les pot-pourris idéologiques, l'hypothèse d'une possible candidature faisait fantasmer tout le monde, assurant une présence constante dans les médias et un succès de librairie certain. Mais alors que s'ouvre son meeting de lancement de campagne à Villepinte aujourd'hui et que le voilà pour ainsi dire au pied du mur, porteur d'une France fantasmatique face à une France réelle, il est temps de s'intéresser un peu directement à celui qui est si obsédé par le déclin de son pays qu'on ne sait plus trop s'il le déplore ou s'il le désire, à moins qu'il n'en soit l'un des plus criants symptômes, celui aussi qui est le candidat à mettre en avant comme personne la culture dans sa campagne présidentielle, et on va en parler dans une seconde. La présence d'un personnage si bizarre dans la course, en tout cas, est incontestablement un signe des temps. Et pour en parler aujourd'hui, Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank américain Atlantic Council. Bonjour Benjamin Haddad, qui nous parle depuis Washington. Et vous avez écrit aussi « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes ». Gaston Crémieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaborateur au DDV, le journal de la LICRA, et aussi à ce nouvel hebdomadaire qui défend la raison, c'est ça, et qui s'appelle Franc-Tireur, c'est ça ?
Franc-Tireur, voilà, exactement.
Et enfin, Étienne Girard, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes rédacteur en chef du service Société à l'Express, et vous venez de sortir au Seuil cet automne Le Radicalisé, qui est la première enquête un peu biographique, je crois, hein, sur Zemmour. Oui. Avant de commencer, je voudrais reparler du clip une seconde. Je voudrais vous faire réagir une seconde avant chacun d'entre vous sur ce clip qui est, on en a dit beaucoup déjà, mais il y a un élément qui est intéressant, c'est que je le disais en commençant, c'est le clip qui est, c'est la déclaration de candidature qui met essentiellement l'accent sur non seulement l'identité, mais la culture. Aucun candidat n'a fait ça de cette façon. Qui est-ce qui veut réagir là-dessus en premier lieu ?
Oui,
c'est le
Panthéon zémourien, cette déclaration de candidature. On était dans sa chambre avec toutes ses références, tout ce qu'il aime. Ouais. C'est cette France du passé. Ouais. Oui, c'est une de ses grandes forces. Hein. Ça vient du Suicide français, ça, son ouvrage qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. C'est une reproduction du Suicide français, ce clip. C'est-à-dire que c'était la même chose. Il parlait des acteurs, des scénaristes, des chanteurs qu'il aimait bien. Et ça parle à cette France nostalgique, mélancolique. Un des paradoxes de ce clip, à mon sens, c'est qu'il mêle les références de façon disparate dans un grand gloubi-boulga, et notamment des références qui sont contradictoires, en tout cas qui ne se recoupent pas. Je donne juste un exemple. Il s'inscrit dans la filiation de Gaulle. C'était pas très subtil d'ailleurs. Il est dans l'imitation de Gaulle. Et en même temps, dans le fond de son discours, on n'est pas du tout dans la défense de cette France gaullienne, de cette vision de la nation où l'assimilation c'est quelque chose qui s'inscrit dans une nation qu'on choisit tous ensemble. Non, lui il défend en même temps une France pré-1789, donc pas très gaullienne en réalité, beaucoup plus catholique, traditionnelle. On le voit d'ailleurs à un moment, il y a une icône chrétienne qui apparaît derrière lui quand la caméra se recule un peu, message subliminal, mais tout dans son discours veille à cette défense de la France catholique, de la culture catholique, et une fédération autour d'un ennemi intérieur qui serait l'immigré, qui est jamais nommé comme tel, mais ça transpire de tout son discours, ponctué par cette fin « Vive la République !» et surtout, et l'important est le mot surtout, « Vive la France
ouais, !»
qui veut tout dire.
Gaston Crémieux.
Oui, c'est exactement ce que l'on ressent. Alors sur la forme, ce qui est assez curieux, c'est que ça ressemble beaucoup au clip des Gilets jaunes. La 7e de Beethoven avait été beaucoup utilisée pour ces espèces de mash-up Gilets jaunes, mais sur le fond, en fait, je crois qu'il ne leur parle pas tellement, pas à cette France-là en tout cas. Et effectivement, on a une impression de France fantasmée. Alors les références sont soigneusement choisies, mais effectivement, on peut penser à Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui essayait de trianguler pendant sa campagne, un coup de Gaulle, un coup Jaurès, sauf que là, c'est un coup de Gaulle et un coup beaucoup plus à droite que de Gaulle. Et le barycentre s'est déplacé et c'est ça, en fait, auquel on assiste en regardant ce clip, sans compter l'usage frappant du terme de substitution qui renvoie là aussi à tout un univers idéologique.
Benjamin Haddad, vous avez écrit, je l'ai pas dit en commençant, mais vous avez écrit aussi un article dans Le Monde sur la nécessité de lire Éric Zemmour et ce qu'on y trouve.
Oui, absolument. Alors oui, la nécessité de lire Éric Zemmour, déjà parce que pour combattre des idées, il faut les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y donner une cohérence intellectuelle et idéologique qui n'y est pas, ni qu'il faut l'élever au rang de mythe intellectuel, mais ne pas se concentrer juste sur les petites polémiques, les phrases qui peuvent être sorties de leur contexte ou qui au fond alimentent le phénomène. On l'a beaucoup vu, moi ici aux États-Unis avec les médias en 2015-2016 dans la montée de Trump, mais à la fois comprendre et analyser la pensée. Il a écrit 17 livres, donc plusieurs livres un peu de doctrine sur le déclinisme français, comme le suicide français ou Mélancolie française ces dernières années. Et puis, en parallèle, répondre aussi aux préoccupations légitimes, que ce soit la sécurité, la montée de l'islamisme ou le déclassement auquel il fait appel, même s'il n'y répond évidemment pas. Moi, ce qui me frappe dans ce clip, c'est qu'on y voit quand même déjà une faiblesse du discours et même du positionnement plus généralement d'Éric Zemmour. On passe beaucoup plus de temps à parler du passé que de l'avenir dans ce clip, avec effectivement un appel à la nostalgie très fantasmé et un peu incohérent, décousu pour la France, mais des messages scandés mais très vagues sur l'avenir. Le problème d'Éric Zemmour, qui se lance aujourd'hui en politique à 63 ans après avoir écrit des dizaines de livres sur le déclin français, c'est qu'il est convaincu qu'on est structurellement en déclin, que la France est foutue. C'est ce qu'on voit en fait au cœur de son œuvre. Et quand on veut faire de la politique, il faut être capable quand même de promettre une forme de redressement, de promettre de tourner. Moi, ce qui m'a frappé en lisant Mélancolie française, par exemple, un livre qu'il a écrit en 2010, c'est que dans la pensée de Zemmour, ce déclin et cette défaite, elle est inscrite presque dans l'ADN de la France. C'est pas seulement un phénomène des 30, 40 dernières années. La conviction de Zemmour, c'est que la France devait être la nouvelle Rome, devait être la continuation de l'Empire romain, donc en fait avec son incarnation carolingienne sous Charlemagne. Et la première défaite, c'est le traité de Verdun en 843, la division de l'Empire carolingien entre les trois petits-fils de Charlemagne. Et depuis, on s'en est jamais remis. L'histoire de France, c'est d'essayer de reconstituer l'unité des frontières naturelles. Et sous Louis XIV, puis sous la Révolution française et Napoléon, à chaque fois, on échoue. Donc, il définit vraiment l'histoire de France sous un échec, défait par Carthage, c'est-à-dire l'Angleterre, puis les États-Unis, les grandes puissances maritimes, libre-échangistes, cosmopolites, d'où cette mélancolie. Et donc, c'est en cela, d'ailleurs, que on voit pas forcément de rupture avec 89, voire avec les 40 dernières années. Donc, il y a vraiment quelque chose de profondément défaitiste au cœur même de l'identité française.
Effectivement, dans votre papier, vous faites valoir le constat que Zemmour ferait d'un pays qui serait dans un état de désastre depuis le traité de Verdun de 1843, ce qui est une vision de l'histoire complètement folle. Et aussi, vous citez un passage de Mélancolie française dans lequel il dit « Notre plus grande erreur, donc à nous les Français, fut sans doute notre victoire héroïque de la bataille de la Marne. » Donc la victoire est présentée comme une erreur. Et alors nous aurions économisé 1,5 million de vies. En cas de défaite française dès 14, pas de révolution russe, pas de fascisme, pas de nazisme, pas d'holocauste des Juifs, pas d'intervention américaine en 17 ou en 44, la Pax Germanica aurait régné sur le continent. C'est-à-dire qu'il aurait aimé la défaite française, et c'est comme ça que son nationalisme s'exprime. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant dans sa vision de l'histoire. Et pas seulement dans sa vision de l'histoire. Dans Le Radicalisé, Étienne Girard, il y a un épisode que vous racontez. Le bouquin est plein d'informations. Il aurait mérité, à mon avis, plus de développement, parce qu'il y a des anecdotes qui devraient, vous l'avez écrit assez vite, ça se sent, mais c'est quand même très, très intéressant. Il y a une anecdote que vous situez en septembre 2008, son anniversaire, l'anniversaire de ses 50 ans, la scène est très très étonnante. Il fête ses 50 ans à la petite Malmaison, c'est-à-dire là où l'épouse de l'empereur tenait son salon deux siècles plus tôt. Parmi les invités, on trouve Isabelle Balkany et Patrick Balkany évidemment, Nathalie Saint-Cricq, Catherine Barma, Philippe Tesson, Nicolas Domenac, mais aussi Paul-Marie Couteau, nationaliste, William Babitbol, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Christophe Cambadélis, Henri Guénaud, Hugo Frey, Dick Rivers.
Oui.
Et à un moment donné, les grenadiers de la Grande Armée roulent du tambour. Ils déclament la date de l'anniversaire de Zemmour selon le calendrier révolutionnaire.
Oui.
Pendant ce temps-là, Jean-Marie Couteau, proche de l'Action française, discute religion et jeu d'argent avec le père de Zemmour, qui était un joueur de, qui est toujours, enfin, non, qui
il était est décédé, un joueur, mais il était, ouais.
Un joueur dans les bars de la Goutte d'Or. Plusieurs des cousines de Zemmour poussent des you-you,
oui.
Et les enceintes passent du Rolling Stone.
Oui.
C'est-à-dire que c'est très étonnant comme paysage, comme ce que ça dessine, c'est comme.
Ah bah on est en plein dans les ressorts psychologiques, déroutants du personnage Zemmour. Moi, ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est que les invités de cet événement-là, c'est pas forcément les meilleurs amis d'Éric Zemmour. C'est que Dick Rivers et Hugo Frey, il les a vus deux fois dans sa vie.
Mm-hmm.
Mais c'est des personnalités importantes. Et donc, ça ponctue sa célébration et sa consécration ce jour-là. C'est un peu son sacre. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans le livre. Cet anniversaire de 50 ans, ça vient après énormément d'avanie, ou en tout cas ressenti comme tel de la part d'Éric Zemmour. Enfin, il est une star. Enfin, on vient pour son anniversaire pour le fêter, lui. Donc, c'est un très grand moment de sa vie. Et choisit, oui, ce décorum napoléonien. Et là, on est vraiment en plein dans un ressort très, très, très zémourien, c'est-à-dire de vouloir mêler un événement, somme toute, anecdotique et petit, c'est-à-dire un anniversaire, avec la grande histoire. Ça ne suffit pas de fêter ses 50 ans chez lui. D'ailleurs, il reçoit très peu chez lui. Pour que cet anniversaire, pour que ce moment ait un quelconque intérêt, il faut l'arrimer à quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire cette filiation napoléonienne qu'il a toujours revendiquée parce que c'est une France magnifiée, une France impérialiste qui s'étend partout, une France forte, et que ça lui parle. Dans ses écrits, et ça fait écho, je trouve, à cet anniversaire de 2008, il y a une obsession chez lui du triomphe. La défaite, bien sûr, parce que c'est le miroir inversé, mais le triomphe. Et il faut triompher. C'est pour ça qu'il aime tellement Napoléon et qu'il a voulu, ce jour-là, ce jour si particulier, s'affilier à cette figure historique avec tous les gens qu'il aime, à qui il peut ne pas être d'accord d'ailleurs, Mélenchon, Cambadélis, des journalistes, Nicolas Domenac, etc. Mais qui vont former un peu ce jour-là sa cour. Et ça, c'est l'apogée. Ce jour-là, c'est vraiment l'apogée de la réussite zémourienne. Ensuite, il va retomber dans des tourments, dans des passions beaucoup plus tristes, qui font qu'il ne sera plus fêté comme tel.
Alors, il est pas le seul parmi les figures politiques aujourd'hui à être complètement incohérent. Pas seulement à droite, il faut quand même le dire. Quand on regarde les campagnes des uns et des autres, c'est quand même ce qui frappe de manière générale. Mais il est le seul à peigner son incohérence, si je puis dire, d'une telle obsession culturelle et en particulier littéraire. Et on retrouve cette incohérence, on en parlait avant que l'émission commence, dans sa fascination pour les illusions perdues, en particulier pour le personnage de Rubempré. Il a donné, dès 2008, quand il a créé son auto-entreprise pour toucher ses cachets télévisuels, vous le racontez, il a donné à sa société le nom de Rubempré. Sa maison d'édition aussi, avec laquelle il publie son dernier livre, s'appelle Rubempré. Prêt également. Et dans le livre, vous le citez, la première fois que j'ai voulu être journaliste, je devais avoir 13-14 ans, c'était en lisant Les Illusions perdues, l'histoire, le journalisme, la littérature. Je rêve aujourd'hui encore de cette scène où Lucien de Rubempré, le poète devenu journaliste, qui ambitionne d'écrire des romans historiques, lit son premier article sur une pièce de théâtre au milieu de la troupe en espérant séduire l'actrice principale. C'est très bizarre parce que c'est l'obsession balzacienne, mais c'est pas Rastignac qui gagne. Oui. C'est Rubempré qui finit par se pendre dans sa prison. Comment est-ce que Gaston Crémieux, qu'est-ce que ça vous inspire
On vit un moment un peu balzacien en France en ce moment, oui. Puisqu'on se remet à parler beaucoup de Balzac. Ce qui m'a amené aussi à regarder à nouveau et à essayer de comprendre. Et c'est vrai que globalement, Rubempré est pas un personnage spécialement positif, dans la lecture qu'on peut en faire. C'est aussi un personnage dont la trajectoire fulgurante se termine bien mal, donc c'est aussi difficile d'en faire une projection absolue. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que tout l'univers autour de Rubempré est l'univers balzacien, mais la part la plus noire de l'univers balzacien, c'est-à-dire que on y décrit une société en profonde décadence et finalement les petits succès de Rubempré profitent de cette décadence, donc ça recroise l'univers mental global qui vient d'être décrit, celui de la défaite et celui de la décadence. Mm-hmm. Donc en fait ça surjoue encore cette affaire de la France comme pays en défaite permanente et en décadence permanente.
C'est une des caractéristiques de Lucien de Rubempré, c'est aussi qu'il ne s'appelle pas de Rubempré. Mmh. Il y a un changement de nom, il y a une négation des origines chez Rubempré. Il s'appelle en réalité Chardon et il est le fils d'un mariage de classes divergentes. Le père n'est pas un aristocrate du tout, et c'est la mère qui s'appelle de Rubempré. Il prend ce nom pour essayer de... Il y a une négation des origines chez lui, et on retrouve cette négation des origines dans le livre. Je vais en citer juste 3-4 lignes, parce que sur le génie, le génie ne relevait que de lui-même, il était seul juge de ses moyens, car lui seul connaissait la fin, il devait donc se mettre au-dessus des lois, appelé qu'il était à les refaire. D'ailleurs, qui s'empare de son siècle peut tout prendre, tout risquer, car tout est à lui. Etc., etc. C'est au début du livre, l'initiation de Lucien de Rubempré, avant que sa carrière ne commence. Et on retrouve ça, d'une certaine façon, chez Éric Zemmour, cette façon qui peut tout dire, tout faire, de marier les éléments les plus disparates de l'histoire de France et de la rhétorique, au nom d'une forme de génie et d'une négation des origines, y compris de la sienne, parce qu'on va y venir, l'aspect juif n'existe que de manière presque formelle dans son parcours, en tout cas aujourd'hui, tel qu'il est revendiqué. Benjamin Haddad, sur Balzac et sur l'illusion perdue.
Oui, alors il a raison d'aimer ce très beau livre, mais effectivement, oui, il l'a compris, c'est une dénonciation du cynisme des élites parisiennes au 19e siècle, mais y compris du cynisme des personnages principaux, de l'individualisme forcené et du rôle de l'argent, et effectivement, ça se termine bien mal pour Rubempré, donc pas forcément un modèle, ou alors peut-être que c'est un modèle assez révélateur pour Zemmour, mais on n'est effectivement pas à une contradiction près. On parlait tout à l'heure de Napoléon. Ce qui est assez intéressant, c'est que Zemmour se met assez explicitement dans la continuité d'intellectuels et historiens de l'action française des années 30, comme Maurras, comme Bainville, mm-hmm. qu'on voit citer très régulièrement dans son œuvre, mais il n'a pas du tout la même lecture de Napoléon, puisque quelqu'un comme Bainville, dans son Histoire de France, est très critique, au fond, de la sorte de machine infernale de conquête de la Révolution française et de Napoléon. Il voit Napoléon comme une continuité de la Révolution française, et il y a chez Zemmour une sorte de fascination, effectivement, juste pour le triomphe, la conquête, et même de façon plus crue, les vertus viriles et masculines du militarisme. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son obsession contre le féminisme, qui voit comme déjà le premier, l'émancipation féminine, la première étape du déclin français dans le premier siècle. Cela dit, il y a une forme de cohérence tout de même, qui est évidemment le retour au nationalisme. Et là, je voudrais dire un mot de la question de Vichy, parce que c'est très intéressant, puisque Vichy est beaucoup plus central dans son œuvre que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas juste une phrase sortie de son contexte un jour qu'on lui ressort à chaque fois. Il y a une volonté vraiment dans sa façon de réhabiliter Pétain, en disant que Pétain a sauvé les juifs français au détriment des juifs étrangers. Tous les historiens ont démontré, avec archives à l'appui, que c'était totalement faux. Mais il y a une volonté de réconcilier les Français avec l'ultranationalisme, en fait de déculpabiliser, en disant au fond on vous a expliqué, la gauche, les Américains vous ont expliqué que le nationalisme avait mené à la déportation, c'est faux, c'est de la propagande de gauche. Donc on se débarrasse de ça et on peut enfin se réconcilier avec un nationalisme dur, faire l'union des droites, le rêve de son copain Patrick Buisson, qui était l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, parce qu'au fond, ce qu'on voit aussi chez Zemmour, c'est un mépris pour l'idéal républicain, pour l'universalisme, qu'il trouve trop désincarné, trop mou pour combattre aujourd'hui la vraie menace qui est l'islam. Ouais. Donc revenons à un nationalisme, lui, incarné, enraciné, qui sera le seul à pouvoir lutter, galvaniser les Français contre cette menace. Mais pour cela, il faut déconstruire le mythe originel, il faut aller au fond, à la racine, ce que, évidemment, le Front National et d'autres s'étaient toujours exclus à faire. Hein. Voulaient justement, pas ouais, il fallait passer à autre chose. Lui va à la racine, qui est Vichy.
Voilà.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le sac du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est
sensible. Oreslan, l'odeur de l'essence, de circonstances. Pour revenons sur Zemmour. Alors, dans votre livre, vous essayez de reconstituer, autant qu'on puisse le faire avec les infos qu'on a, son parcours depuis le début. Donc, il y a des éléments biographiques. Étienne Girard, dans le livre, le radicalisé, hein, c'est le titre.
Oui.
Et ce qui frappe, c'est que il y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que il naît en 58 dans une famille juive absolument classique. L'école Lucien de Hirsch, école juive, est absolument classique. Il y a Bnei, le collège lycée, qui est le collège juif, est aussi tout à fait classique. C'est plutôt un bon élève. Il découvre à la fois il est dans la religion, dans le rituel, mais il est aussi dans la découverte de la France, absolument classique. La mère qui l'idolâtre est absolument classique aussi. C'est des choses qu'on trouve, la religion acceptée, on retrouve ça chez Romain Gary, l'idolâtrie de la France et de la culture française comme mode d'assimilation. Tout ça est absolument clair. Et puis, il y a l'échec à l'ENA, après Sciences Po. Il y a les petites humiliations, les profs à Sciences, le prof de Freud, le prof de Sciences Po qui lui dit, êtes-vous de la famille des frères Zemmour, des choses comme ça. Oui. Mais c'est surtout l'échec à l'ENA qui apparemment le plonge dans la dépression quand il a une vingtaine d'années, au début des années 80, le passage par une espèce d'errance professionnelle, la publicité. Oui. Et c'est finalement un publicitaire qui lui conseille de s'engager dans le journalisme, ce qu'il va faire d'abord à travers un stage au Quotidien de Paris. Et ce qui est intéressant dans le livre, ce qui se dessine, ce qui s'esquisse de sa personnalité. Philippe Tesson, que vous avez rencontré, il avait une ambition sans limite avec le journalisme comme moyen. Il ne la comprenait même pas. Oui. C'était pathologique, touchant et ridicule à la fois. Il déteste travailler en équipe. Il ne provoque pas l'affectivité. C'est un immense solitaire. Oui. Il a une indifférence totale aux autres, non pas dans les formes, mais dans le fond des choses. C'est intéressant.
Mais ce que je trouve intéressant dans le personnage Zemmour, c'est précisément ces deux plans. Le plan de l'idéologie qu'on connaît, Mais en réalité, par exemple, avec cette référence à Rubempré, je trouve qu'on perçoit le vrai Zemmour, ou l'autre Zemmour, c'est-à-dire un Zemmour dont le ferment et le moteur principal n'est pas l'idéologie, dont le moteur principal est cette ambition forcenée qu'il ne comprend pas totalement. Effectivement, parcours tout à fait classique, républicain, il y en a des milliers comme lui. Ce qu'il y a d'exceptionnel chez Zemmour, avant le personnage idéologique, moi, il me semble que c'est ça. C'est ce besoin viscéral de parvenir et de se faire remarquer. Et il ne s'épanouit pas dans un apaisement où il trouverait sa place. Quelque part, non. Il a besoin de fracas, d'ébahir, d'époustoufler, de faire frémir. C'est ça, le personnage Zemmour, ça a toujours...
Alors, ouais.
Et ça.
Et il y a quelque chose qu'il faut dire.
C'est en ça qu'il était pas
sur, oui, ouais. Il y a quelque chose qu'il faut dire sur l'époque des années 80, parce que réussir dans les années 80, c'est pas comme réussir dans les années 70. C'est les socialistes qui sont au pouvoir. Il y a un mélange des genres entre journalisme et politique qui se met vraiment en place à partir de ça. Vous le dites d'ailleurs, oui. Y compris à Libération, hein, on rédige les communiqués politiques de temps en temps, même quand on est journaliste. Donc ce mélange des genres qui met tout le monde mal à l'aise, Éric Zemmour lui-même. Même votre Mitterrand travaille dans un journal de droite. C'est aussi l'époque où se crée l'infotainment. Vous en parlez, Gaston Crémieux, dans votre article. C'est là qu'apparaît d'abord Polak, puis Ardisson, et puis enfin Taddeï, qui ont pour particularité ils vont structurer le PAF tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est les précurseurs de Hanouna. Mais ils ont pour particularité aussi d'être tous littéraires, de se vouloir tous littéraires. Et c'est aussi cette génération qui va donner, outre Zemmour, Houellebecq, Soral, Nab, etc. Donc il y a quelque chose de très marquant à ce moment-là.
Effectivement, si on file la comparaison avec Rubempré, on peut dire que Rubempré découvre la presse comme nouvelle forme qui explose à l'époque de Balzac, et ce qui explose à l'époque de Zemmour et qui lui donne une caisse de résonance fantastique, c'est cet infotainment à la française, on va dire, qui apparaît effectivement fin des années 80, début des années 90, autour d'abord de la figure d'Ardisson, et c'est finalement un mode de structuration du débat politique qui est extrêmement nouveau dans une France qui a toujours essayé de garder la rationalité comme étant un point nodal pour pouvoir organiser les idées. Là, en fait, chez Ardisson notamment, on va créer une nouvelle forme de débat où effectivement on va essayer de mettre en avant les clivages les plus frappants.
Le scandale, le clash,
etc. Et c'est vrai que la remarque de Godard sur l'objectivité à la télé, qui était 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs, c'était vu ironiquement chez Godard. Là, ça devient un principe d'organisation de toutes ces émissions où finalement, entre une Miss France et un footballeur, on va mettre des politiques ensemble. On va chercher en fait à mettre en avant l'appartenance communautaire des uns et des autres. Et ça crée en partie les problèmes que l'on vit aujourd'hui. Et surtout, on va les faire s'affronter. C'est-à-dire que sur le conflit israélo-palestinien, on va mettre un juif et un arabe de manière bien organisée. Et finalement, c'est dans cet univers-là, Debord disait, pour que le spectacle fonctionne, il faut de fausses oppositions. Et donc, c'est dans cet univers-là des fausses oppositions que Zemmour arrive en étant d'abord un bon client chez Ardisson, ensuite un chroniqueur chez Ruquier, et il finit par avoir chez CNews sa propre émission, sur Paris Première sa propre émission également, où finalement, il reproduit ce schéma des fausses oppositions, du clash absolu. Et là où le système atteint son point d'incandescence encore plus important, c'est que maintenant, c'est plus simplement dans des émissions particulières qu'on va générer des fausses oppositions. Maintenant, à l'intérieur du groupe Bolloré, c'est d'une chaîne à l'autre. C'est-à-dire, tout ce qui est vu en négatif sur CNews est repris en positif dans les émissions d'Hanouna sur C8. Donc finalement, là, on est dans un niveau de structuration de notre débat politique où l'infotainment l'entertainment a pris une place majeure et peut-être même prépondérante. Mmh. Et donc, de la même façon que Trump était, on va dire, le fruit de la télé-réalité à l'américaine, on peut dire que Zemmour est assez largement le fruit de l'infotainment à la française.
Benjamin Haddad, vous qui êtes aux États-Unis, vous voyez vraiment le parallèle avec Trump ou... Parce que là, il y a quand même une grande différence, hein, c'est que Zemmour ressemble plus, au moins autant à Bannon qu'à Trump, en fait, dans son...
Absolument, c'est un petit peu une synthèse des deux. Alors évidemment, il ressemble à Trump parce que c'est un produit de la télévision, c'est un produit des mass médias, il sait les utiliser. D'ailleurs, il est obsédé par Gramsci, hein. Il cite très souvent l'hégémonie intellectuelle doit passer avant l'hégémonie politique. Donc, il y avait une façon d'occuper l'espace médiatique. Il fait d'ailleurs avec un certain talent, puisqu'il balance des provocations, tout le monde réagit, ça continue à le mettre au centre du débat en permanence. Et c'est comme ça qu'on a vu la montée de Trump en 2015-2016, qui était totalement, mais qui occupait l'espace médiatique et qui forçait les autres à constamment réagir à lui, qui utilisait les réseaux sociaux de façon très habile, etc., avec des provocations à chaque fois, qui provoquaient les indignations de l'élite qu'il dénonçait, donc il pouvait se mettre porter en victime de l'élite. En revanche, il est beaucoup plus idéologique que Trump. Oui. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il y a un mot qu'il ne faut pas utiliser pour Éric Zemmour, c'est celui de populiste, qu'on entend beaucoup depuis quelques années, puisque les populistes ont tendance à essayer de plutôt rassembler les antiglobalistes de gauche, de droite. C'est une grosse différence qu'il a avec à la fois avec le discours, mais aussi avec l'électorat de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen a un électorat économiquement, socialement beaucoup plus à gauche que celui d'Éric Zemmour, qui est pour l'instant plutôt dans une forme de bourgeoisie catholique de droite.
Oui, alors on va y venir,
c'est un nationaliste d'extrême droite et avec effectivement ses références propres. Donc en cela, il est plus proche de Bannon, c'est un journaliste aussi comme Bannon, voire même de sorte de prophète apocalyptique du nationalisme russe, par exemple, à la Dugin qu'un Trump.
Ouais. Alors, pour revenir sur sur l'aspect un peu biographique, cette culture du clash fin des années 80 et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, la particularité de Zemmour là-dedans, Étienne Girard, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que vous insistez, enfin les gens que vous avez vus insistent là-dessus. Hein, il était quand même petit garçon tout frétillant, très impliqué, regardant ses chaussures et ricanant bêtement. Ça c'est quand Christian Jacob lui propose d'entrer au jury de l'ENA. Il n'en revient pas. Personne ne peut dire qu'il n'était pas charmant, dit Laurent Ruquier. Il est tout frêle, ça participe de son côté sympathique. Il y a un côté même bizutage permanent. Oui. Quand l'humoriste Jonathan Lambert finit par lui envoyer des graines au visage, et chaque fois Zemmour pouf de rire. Il y a un côté comme ça frêle. Manuel Carcassonne, son éditeur, dit de lui il était peigné comme chez les scouts, c'était le gendre idéal. Denis Bourgeois, son éditeur en 2002, je le revois déjà vif, pourtant je ne sais quel complexe de son enfance, etc. Et ça le poursuit. Évidemment, il dit lui-même avoir peu profité de la libération sexuelle pendant ses années étudiantes, etc. Et en revanche, toute sa brutalité apparaît. C'est là qu'il gagne vraiment ses galons de star du PAF dans les années 2000 avec Le Premier Sexe.
Ben, c'est quelque part l'instinct génial de Zemmour là-dessus, c'est qu'il a compris qu'il pouvait faire de ce personnage de frêle, de le malheureux de la cour de récréation, qu'il a l'impression de continuer à être, même devenu quinquagénaire, il peut faire de ce personnage une force. C'est-à-dire que ça lui donne... C'est ce que me disent beaucoup d'interlocuteurs. Une cote de sympathie, de popularité. Il n'a pas cet aspect anxiogène que peuvent avoir certains représentants de l'extrême droite à la télévision. Il dit des choses qui sont beaucoup plus radicales que quelqu'un comme Bruno Gollnisch, par exemple. Mais quand on est à la télévision, on a l'impression qu'Éric Zemmour, c'est quelqu'un de beaucoup plus sympa. Il joue à la perfection avec les codes télévisuel. Il a compris que avoir un personnage, c'est-à-dire, et en l'occurrence, ce personnage, c'est ça, c'est cette dichotomie entre un aspect frêle, un aspect souriant, aimable, gentil, et une brutalité sans aucune concession, même une méchanceté parfois sur le fond, ben ça va participer à son succès. C'est ce qui se passe d'ailleurs.
C'est le premier sexe qui est le livre qui le lance en fait, est un livre vraiment sur qui est l'apologie de la force masculine.
Tout à fait.
Faut le dire comme ça. Il s'aligne pratiquement sur les thèses d'Alain Soral en réalité à ce moment-là.
Soral
de la sociologie du dragueur, il va se faire accuser par Soral de plagiat. Et Gaston Crémieux, dans le livre, il y a un aspect généralement peu souligné qui est la théorie de l'imitation. C'est-à-dire que il explique dans le premier sexe que le jeune arabe est le non-dit le plus lourd de la société française, rejeté et désiré, haï et fantasmé, et que en fait le retour de la virilité des jeunes Gaulois, je cite Zemmour, hein, passe par le vote identitaire. Donc c'est-à-dire par une sorte de d'imitation des musulmans. Et je trouve ça passionnant parce que ça anticipe sur ce qu'il dira plus tard à propos des frères Kouachi, quand il parlera de son admiration pour les frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo, capables de faire des choses que nous, occidentaux féminisés, ne sommes plus capables de faire, c'est-à-dire tuer et être tués. C'est dans le premier sexe qu'on en trouve la première ébauche, en fait.
Exactement. Et alors, si ça n'est pas un plagiat formel, c'est au moins un plagiat intellectuel, parce que c'est exactement la ligne de Soral dans un livre précédent, deux ans avant. Et finalement, aussi bien Alain Soral que Jean-Marie Le Pen, en fait, disent de Zemmour, en fait, il dit tout ce qu'on voudrait dire. Et il peut le dire parce qu'il est juif.
Parce qu'il est juif.
Et que il ne se fera donc traiter ni de fasciste ni de nazi. Et donc, on pourrait dire finalement ce genre d'adoubement, on peut le rejeter. Zemmour l'accepte parfaitement puisque visiblement en lisant le bouquin de Monsieur Gérard, on s'aperçoit qu'il le fréquente et que donc du coup il y a des échanges réguliers, etc. Au moins pendant quelques années, et puis avec Le Pen père, c'est beaucoup plus récent puisqu'on a eu vent de son dîner avec Le Pen et la fille Ribbentrop très récemment. Donc finalement, ce rôle de passeur des idées de l'extrême droite ou de relève des idées de l'extrême droite dans le débat public, Zemmour l'accepte parfaitement. Toute son œuvre en fait vise à structurer les choses de cette façon-là, et on pourrait dire pour être un peu ironique qu'il est en quelque sorte une nouvelle divine surprise pour l'extrême droite maurassienne, puisqu'elle était à terre. Et si on lit ses livres correctement, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il essaye de la relever.
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi islamisto-compatible. Et ça va éclater avec la sortie en 2014, avec la sortie du suicide français, parce que il est soutenu par l'association Arrêtons le massacre des enfants à naître, Amen, un des avatars de la fraternité Saint-Pie-X. Hein, c'est ces groupes-là qui, dès les années 80, ont mis sur la place publique le concept de catophobie que les islamistes vont reprendre et vont transformer en islamophobie, mais à l'époque des années 80, contre Godard, contre Je vous salue Marie, c'est à ce moment-là que naît l'idée qu'être contre une religion, c'est être raciste. C'est dans ces groupes-là que ça naît, avant d'être ensuite repris par les groupes islamistes. Et à partir des années 2014, et ensuite, Zemmour se rapproche en fait de ces groupes-là.
Totalement. 2014, c'est vraiment une date clé.
C'est-à-dire pour lui comme pour la France d'ailleurs. Hein,
parce que
c'est la clé du. C'est l'année de la manifestation Jour de colère ou qui est mise au point par ces mêmes groupes Civitas dont Zemmour va, qui vont se rapprocher de Zemmour. Et c'est là qu'on va entendre les premiers slogans antisémites. C'est là que les incidents antisémites vont monter en flèche dans les banlieues. C'est 2014, c'est vraiment une année charnière à ce moment-là. Et pour Zemmour aussi.
Bah oui, parce que jusqu'alors il s'arrimait à une pensée républicaine de droite, de plus en plus à droite, mais tout de même forgé sur le concept d'assimilation. C'est son concept vraiment phare jusqu'en 2014. En 2014, il prend un très grand virage. En fait, ça change l'idéologie zemmourienne. Il se rapproche, il fait des clins d'œil tout à fait approfondis au cercle catholique, il prend une attachée de presse qui est la communicante de l'Opus Dei.
Isabelle Müller.
Isabelle Müller, et qui lui a été conseillée par Philippe de Villiers. C'est un vrai virage donc stratégique mûri. Il va faire une tournée qui se passe dans toutes les places fortes de la France catholique. À chaque fois, ces déplacements sont organisés par des associations qui sont proches des catholiques, soit ultra-conservateurs, soit traditionnalistes. Il y a des dates organisées notamment par des cercles proches de l'Action française. Et sur le fond, dans sa prose, sous sa plume, il défend, ça y est, cette France millénaire, éternelle. On ne peut plus être français sans défendre la culture catholique. Vous ne vouliez pas du christianisme et vous aurez l'islam. Voilà, ça devient ça, Éric Zemmour, à partir de 2014.
Et à partir de motif, là, ça va être là.
Il va continuer à le tisser dans
l'ouvrage. Je cite juste 2-3 exemples. Hein, des relais qui sont mis en place par Isabelle Müller à ce moment-là. Oui. La maison d'édition Chéré, qui revendique une ligne contre-révolutionnaire opposée à la doctrine des Lumières, qui relaie les thèses du XVIIIe siècle, d'un complot franc-maçon à l'origine de la Révolution, chez qui on trouve Mein Kampf, les bouquins de Soral, etc.
Tous les ouvrages antisémites possibles,
qui va être un des relais de Zemmour, et bien d'autres, hein, proches de l'Action française, anti-républicains assumés. Oui. Donc la phrase du clip « Vive la République et surtout vive la France » est une allusion claire au fait que la République n'est pas si importante.
Absolument.
Que ça, etc. On va bientôt finir cette émission. Je vais vous demander à chacun, pour autant que ce soit possible, une sorte de pronostic sur la suite des événements. Là, il est au pied du mur. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va finir comme Rubempré, pendu à sa propre corde, ou est-ce que vous pensez qu'il a, les uns et les autres, est-ce qu'il va jouer vraiment un rôle dans cette campagne? Qui est-ce qui veut commencer?
Moi, je peux dire que son destin individuel n'est pas forcément la chose la plus intéressante. Ouais. En fait, c'est la marque idéologique qu'il va laisser. Et en fait, le vrai test, c'est savoir si finalement, à l'issue de la séquence présidentielle plus législative, on a encore une droite républicaine debout, ou si l'OPA aura réussi, c'est-à-dire si finalement les idées anciennes de l'extrême droite maurassienne reviennent au centre du jeu et sont, même si vaguement modernisées, au cœur de ce que portera la droite ou les droites à l'issue des législatives.
Et ça, Valérie Pécresse, c'est un vrai choix à faire qui n'est pas simple, justement parce que c'est une femme, entre autres choses. Parce qu'on va ça va être compliqué pour elle de se positionner, à mon avis.
C'est une femme et c'est aussi une femme versaillaise. Ouais. Et donc, du coup, elle a aussi, en fait, un certain nombre de points de contact dans cette sphère, on va dire, catholique traditionnelle. Ouais. Et donc, du coup, il n'est pas exclu qu'elle s'en serve. Toute la question est de savoir si c'est central ou si c'est périphérique dans l'idéologie qu'elle porte.
Benjamin Haddad, très vite.
Oui, il est un symptôme et un accélérateur de la présence de ces idées d'extrême droite dans le débat français. Donc, la question de l'impact à long terme. Je pense qu'il faut prendre sa candidature au sérieux. Il faut la combattre. Mais effectivement, je crois qu'il va jouer un rôle dans cette élection présidentielle. Mmh.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la réalisation Louise André et à la technique Jacques Azibert. Je rappelle le titre du livre, Le radicalisé, par Étienne Girard, à qui je n'ai pas eu le temps de demander son avis sur l'avenir de Zemmour, mais ce sera pour une prochaine émission.
Volontiers. At her feet was